pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. Si vous avez dit quelque chose contre l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça va pas plus loin.
Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
Vous êtes en état d'arrestation.
Vous êtes là pour être puni. Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous pouvez liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout.
Ils disent qu'on est menaçant. On est menaçant.
On est menaçant.
Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs.
Ils sont que des menteurs.
Tout est prison, tout est prison.
Laisse pas béton.
Alors aujourd'hui, c'est Justin et Marie qui animons cette heure ensemble. Alors voilà, donc voilà, je répète, vous écoutez Laisse pas béton, l'émission qui donne la parole aux personnes concernées par la tôle. Et donc aujourd'hui, moi c'est Marie et avec Justin, on va animer cette émission. Salut Justin.
Voilà, bonjour, moi c'est Justin. Bonjour.
Donc on a choisi de parler du thème des violences en prison avec l'envie de lever un peu le voile sur toutes les formes de violences pénitentiaires, tout ce que ça recouvre, ce terme. Et ce soir, alors on a une invitée en direct avec nous sur le plateau pour discuter de ce sujet. Salut Steph.
Salut à tous, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous rencontrer et contente d'être avec vous ce soir.
Merci d'être avec nous ce soir. Et avant de démarrer et de présenter le fonctionnement de l'émission, est-ce que tu voulais introduire un peu ta présence, expliquer pourquoi tu es là et,
Oui, voilà. Donc, moi, je m'appelle Steph, j'ai 43 ans. J'ai été détenue dans les établissements en Wallonie, dans deux différents. Et mon compagnon est actuellement détenu dans une prison également de Wallonie. Et je suis concernée, et il est concerné par un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de la prison. Voilà.
D'accord. Merci encore d'être là.
Avec plaisir.
Et donc cette émission, on va discuter des violences pénitentiaires, de qu'est-ce qu'on va appeler violences pénitentiaires, les différentes formes que ça peut avoir. On va parler un peu de ton vécu et de ton expérience de ces violences, visibiliser cette question et commenter aussi des témoignages qu'on a de Vanessa, plusieurs témoignages qui ont été recueillis et qu'on passera durant l'émission, qui est aussi proche d'un détenu depuis de nombreuses années et qui n'a pas pu être ici aujourd'hui. Mais avant tout, avant d'expliquer aussi le reste du thème de l'émission, on va commencer aussi par les points d'actualité. Et voilà, on peut faire un petit jingle avant les actualités ?
Alors, concernant l'actualité d'aujourd'hui, on va principalement s'axer sur en fait l'aménagement du paysage carcéral en Belgique, parce qu'on sait que c'est toujours ça qui nous fait fort plaisir. Donc la prison de Haren, la maxi-prison 2300 places aux alentours de Bruxelles, est donc à ses finitions en termes de bâtiments et architectural. Par contre, la galère actuelle est, on l'a déjà dit la dernière fois, le recrutement d'agents pénitentiaires. Il semble même qu'au niveau de la direction, ça patauge. On a entendu qu'un membre de la direction d'une autre prison a été transféré vers la prison de Haren, mais évidemment pas remplacé. Apparemment, ça ne court pas les rues toutes les personnes qui rêvent de diriger un établissement où on enferme les gens. Ce qui a pour impact de, par contre, vraiment moins drôle, de ralentir toutes les tâches liées à la direction dans cette prison où, en fait, le membre du personnel de la direction a été transféré. Alors, les autorités publiques pataugent donc dans le lancement de Haren et en même temps, elles ne tiennent pas leur promesse qui était, rappelons-le, la disparition de la prison de Saint-Gilles et de Forêt. En effet, le ministre de la Justice a annoncé le prolongement de Saint-Gilles et de Termonde en pointant du doigt la surpopulation carcérale qui est aujourd'hui au dernier compte de 11 140 personnes incarcérées pour 9 000 places de prévues. 2 000 de trop ou 11 000 de trop peut-être. L'État belge justifiait donc la création d'une maxi-prison pour lutter contre la surpopulation et puis aujourd'hui justifie le maintien des vieilles prisons pour les mêmes raisons. Il reste donc dans cette même logique de construire de nouvelles prisons pour lutter contre la surpopulation, logique dénoncée comme inefficace puisqu'il a été prouvé depuis longtemps que plus on crée des places en prison, plus les magistrats se débrouillent pour les remplir et les dépasser. Dans ce même communiqué, Van Kuykenborn annonce aussi que l'exécution sera progressive concernant les petites peines de prison. Donc rappelez-vous, ça c'est le changement législatif qui faisait que les petites peines de moins de 3 ans allaient aujourd'hui être exécutées. Et donc il annonce que ce sera progressif l'arrivée de cela pour éviter d'aggraver la surpopulation. Alors que justement on peut se rappeler aussi qu'il a toujours maintenu dans ses anciens communiqués que l'exécution des petites peines permettait justement une baisse de l'incarcération, car selon ses dires, les juges condamnaient à plus de 3 ans de prison systématiquement parce qu'ils savaient qu'en dessous de 3 ans ce n'était pas exécuté. Vous voyez un peu là, il faut quand même bien suivre, mais là aujourd'hui il a changé d'avis, l'exécution des peines aurait permis moins d'incarcération avant, mais aujourd'hui, il n'y croit déjà plus. Alors, concernant les fausses promesses, le ministre de Justice a également annoncé que la prison de Birkendal allait devenir une maison de détention. Au lieu de disparaître comme prévu, la prison de Birkendal deviendra plus petite. Alors, le ministère de la Justice a également annoncé un durcissement de la répression concernant les délits sur la route suite au drame arrivé à Strépy-Brakni. La répression, solution à tous les problèmes. Voilà, alors pour terminer ce petit point d'actualité qui était axé sur tous les belles promesses de notre ministre de la Justice, eh bien le Conseil central de surveillance pénitentiaire a fait un communiqué où il invite en fait les magistrats et les parlementaires, donc tous les politiques, à aller découvrir l'enfer de la surpopulation carcérale. Le point d'actualité se terminera sur cette invitation.
Eh bien merci beaucoup pour ce point d'actualité. J'ai cru entendre aussi qu'il allait peut-être y avoir pour l'inauguration de la maxi-prison de Haren une nuit offerte à des magistrats et des juges dans des places de prison qui n'auront jamais été utilisées. Donc qu'est-ce qu'elles seront propres, qu'est-ce qu'elles seront bien pour les nouvelles personnes qui iront dedans.
La chance.
Ouais, ce serait peut-être mieux qu'ils fassent des nuits dans celles qui vont fermer, histoire qu'ils se rendent compte. Et est-ce qu'il y a peut-être déjà des retours par rapport... Donc l'actualité s'est allée assez vite, mais est-ce qu'il y a peut-être déjà des réactions par rapport à ce qui a été dit là, avant qu'on présente la suite?
Effectivement, hein, la surpopulation carcérale, ça c'est un sujet vraiment actuel. Il y a 9 mètres carrés, c'est prévu pour une personne, mais on met des lits tiroirs, et il y a 2 personnes, on se marche dessus. C'est l'horreur. Mm-hmm. C'est l'horreur.
Ouais, c'est clair, et on n'a pas beaucoup foi que ça va s'améliorer avec le temps.
Je ne pense pas non plus.
Mais ouais, merci Marthe. Et du coup, Steph, pour commencer un peu sur le thème du jour des violences pénitentiaires, nous on avait un peu envie de te demander si c'est quelque chose que tu avais connu en tant que détenu, en tant que proche, et en fait aussi, est-ce que tu as l'impression que c'est une exception ou si ça fait partie du quotidien en fait d'une personne concernée par la tôle?
Les violences pénitentiaires, ça fait partie du quotidien. Moi, personnellement, en tant que détenue, c'est plus de la violence psychologique. Par un exemple tout simple, on a droit à 15 minutes de douche. À la 16e, il y a un rapport qui tombe. Voilà, ça c'est déjà le premier exemple. Alors, il y a aussi les violences un petit peu du type sexuel aussi. Les matons. Parce que même que nous sommes des femmes, en tant que détenues, profitent un petit peu de notre situation pour avoir droit à certaines faveurs, pour qu'on leur demande un paquet de cigarettes ou faire rentrer quelque chose, de l'herbe ou quoi, ils sont capables, ils le font. Moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais je connais les filles à qui ça arrivait et c'était monnaie courante.
Ah ouais. Ouais, donc il y a vraiment toute une dimension sexiste, quoi.
Oui, tout à fait.
Qui est
oui, dans une des deux prisons, on était des femmes, on était surveillées par des femmes. Mm-hmm. Quant à l'autre, c'était mixte. Donc on pouvait se trouver en petite culotte, genre en train de s'habiller. Un homme frappait, entrait, donc on se sentait complètement violé dans son intimité. Les toilettes étaient juste mises. Allez, à l'œilleton pour la surveillance spéciale, quand on est au tout début, pendant X jours, on est en surveillance spéciale, donc toutes les demi-heures, boum, on vient à voir. On peut être en train de se laver, être en train de s'habiller, être en train de faire ses besoins sur les toilettes. Enfin, c'est vraiment pas cool du tout, quoi. Même, je veux dire, même si c'est une femme, mais c'est encore plus choquant quand c'est un homme.
Non, en fait, il n'y a pas d'intimité, quoi. C'est
non,
ça
pas du tout. Non, non, non. Après, je vais dire oui. Hein, je vais dire, quand on n'est plus en surveillance spéciale, mais bon, il y a toujours quelque chose qui tombe. Hein, c'est, il faut aller signer un papier, ou alors on est appelé pour aller faire un examen médical, ou ça peut être plein de choses. Voilà. Mm-hmm. Donc ça tombe quand ça tombe, et on est toujours celui qui vit, quoi.
Et moi, j'avais une question par rapport à ce régime spécial. Il dure combien de temps et comment ça se comment
semaine.
Toi t'as vécu ça et comment c'est justifié aussi cette
en fait c'est justifié. Donc la première fois, moi j'ai été transférée après 17 jours. Donc je suis rentrée dans le premier établissement. Le juge d'instruction a ordonné mon transfert parce qu'il y avait une personne de ma famille, mais lointaine, qui était présent. J'étais déjà en surveillance spéciale là pendant une semaine et quand j'étais transférée, ils ont mis en surveillance spéciale de nouveau 8 jours. Et en fait, c'est pour éviter les suicides, pour surveiller vraiment si on ne met pas nos jours en danger, quoi. Et c'est respecter les premiers jours, mais après, j'ai envie de dire, ils lâchent un peu le bazar, quoi. Il y a eu les surveillances spéciales aussi parce que c'était en pleine période Covid. Donc là, on était enfermés 24 heures sur 24. Plus de préau, plus d'activité, plus rien. J'étais seule en cellule. Et ça a été très, très dur à vivre. Mm-hmm. Très, très dur. Mm-hmm. Vraiment. Et un jour, j'ai complètement, permettez-moi l'expression, mais pété les plombs. Et on ne m'a même pas ouvert. J'ai eu aucun soutien, rien du tout. J'ai dû me calmer toute seule. Et je me suis pris un rapport en plus, quoi. Donc c'était mauvais pour mon dossier, carrément.
Oui, ça rejoint ce que tu dis, la violence psychologique, quoi. Aucun soutien.
Aucun soutien.
On verra avec Vanessa qu'elle parle aussi du fait qu'il n'y a aucune formation en fait, des gardiens qui sont là pour appuyer des personnes qui vivent des détresses psychologiques en fait, à certains moments. Il n'y a rien qui est mis en place, quoi.
Non, rien du tout. Et en plus, j'avais appris que j'étais atteinte d'une maladie qui est soignée maintenant, merci. Mais c'est debout, devant le médecin, il n'y a pas de chaise. On vous apprend que vous avez une hépatite C. Que vous n'êtes même pas au courant et on vous lâche ça, on vous dit maintenant vous sortez. On commence à pleurer, ce qui est normal. Et on vous dit bon, maintenant dépêche-toi de rentrer dans ta cellule. Hein. Maintenant, on est en 2022, ça se soigne. Hein. Voilà. Donc, aucun soutien vraiment.
C'est les gardiens qui te disaient ça.
Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il fallait fermer les portes, fermer les grilles. C'était vraiment. Par contre, il y a deux autres personnes que ça, c'était des personnes en or. Pas dire leur nom parce que voilà. Mais ça, c'était vraiment des personnes très très bien.
Okay. Et moi, c'est parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui émerge souvent quand on parle de violence pénitentiaire, mais par rapport aux violences qu'on peut s'infliger, est-ce que ça arrive aussi justement qu'il y ait des rapports, et c'est-à-dire des violences administratives qui aient lieu après que quelqu'un ait essayé de s'infliger
oui,
à soi-même?
Tout à fait, parce que c'est arrivé à une personne qui a cassé son ampoule et qui s'est tailladé les veines, et elle a été punie, donc isolement en espace de séjour, comme on appelle ça, donc c'est l'isolement en cellule. Et ça a duré, je crois que c'est une bonne dizaine de jours. Hein,
Punie de ne pas être bien mentalement, quoi.
Voilà, tout à fait.
Eh ben. Et est-ce que tu as l'impression qu'en fait les gens à l'extérieur des prisons, ils ont un peu conscience de tout ça, de tout cet univers de violence qui se passe à l'intérieur?
Je ne pense pas. Tant qu'on n'a pas vécu vraiment la prison, et qu'on n'a pas un proche qui s'y trouve, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. Les gens ont tendance à dire, oui, ils sont en prison, ils l'ont mérité, c'est bien fait. Mais bon, malgré tout, ce sont des personnes humaines, qui ont des sentiments, qui ont des besoins. Mmh. Et on ne peut pas aller contre ça. Et c'est vraiment malheureux de penser comme ça, s'arrêter pas aller voir plus loin que le bout de son nez, de penser que ce sont des personnes vraiment derrière ces barreaux, quoi.
Mmh, c'est clair. Oui, il y a vraiment tout un imaginaire de la prison où on déshumanise, en fait.
Oui, ou alors il y a carrément des personnes qui pensent que ça se passe comme dans Orange is the New Black, les combinaisons orange avec le boulet au pied. Enfin, il y a plein de trucs, hein, on entend plein de choses. Alors, c'est les questions. Alors, ah bon, c'est comme ça? Ben oui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de questions et les gens sont fort étonnés.
Et ça, peut-être, c'est un peu hors, pas vraiment hors sujet, en fait. C'est aussi sur la façon de pouvoir s'habiller, se représenter au sein des prisons, parce que vu que ça va souvent avec les clichés de comment on est fringué, est-ce qu'on peut se coiffer, est-ce qu'on peut se maquiller.
Ah, ça,
et
oui.
Ça, qu'est-ce que toi, t'as subi quoi comme règle?
Oh, ben en fait, j'avais aucune règle. En fait, pour quitter, je vais dire, l'aile, il suffisait de mettre un tablier rose sur le dos pour pouvoir accéder pour aller refaire les empreintes parce qu'elles avaient été mal faites. Ou alors, quand on va au tribunal, là aussi, il faut mettre le tablier pour le temps qu'on sort. Mais sinon, on s'habille comme on veut. On peut commander du maquillage. On commande des lisseurs, des sèche-cheveux. On a des cantines externes pour ça, mais il faut l'argent qui suit parce que c'est pas donné. Les cantines sont très très chères.
Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus cher que ce que tu achètes quand t'es à l'extérieur.
Oui, bien sûr, oui, oui.
Mmh. Ouais, ça, c'est toujours bien de le rappeler.
Et d'un établissement à l'autre, en plus, ça varie vachement. Hein.
Ah oui.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça, je confirme.
Mmh. Et tu peux recevoir du maquillage ou quoi de
Non, rien du tout de l'extérieur. Moi, j'ai juste pu ramener un livre de dessin et des crayons de couleur professionnels, simplement à la demande au directeur, avec approbation, et j'ai pu avoir. Sinon, rien de l'extérieur ne peut rentrer.
Ah là là.
D'accord. Bah, moi, j'ai pas. Je propose, en fait, peut-être pour continuer la conversation et la relancer, en fait, d'écouter le témoignage de Vanessa, donc, qui est un assez long témoignage et qui témoigne d'un suivi de plusieurs années d'un proche en détenu, et donc une assez longue description de toutes les formes de violence, enfin, toutes. On en C'est découvre tout le temps des nouvelles. Et on pourra réagir justement sur est-ce que c'est des violences? Comment est-ce que. Elles ont été... Enfin bon, bref, témoignage, on peut le lancer s'il vous plaît, à la régie.
Les violences qui sont faites en prison, c'est aussi des violences psychologiques. Il faut savoir que les gardiens sont très solidaires entre eux. Donc, par exemple, ils peuvent, s'ils n'ont pas envie, ne pas te donner ta douche, ne pas que tu puisses appeler ta famille. Donc, ils te poussent psychologiquement pour que tu te montres agressif violemment. Ça marche du chantage aussi. Ça veut dire, si tu ne tiens pas tranquille, ben, on ne te donnera pas ta VHS. Si tu veux, si tu ne rentres pas dans le moule pour qu'eux aient un minimum de tranquillité, pas par rapport à leur travail, mais au-delà, c'est du chantage en permanence, en fait. Donc, c'est ça aussi les violences pénitentiaires. Les violences pénitentiaires, c'est le fait qu'une personne qui rentre sans argent n'a absolument droit à rien. Pas de télévision, pas de tabac, pas de cantine, pas de téléphone, rien. On dit souvent que les prisons sont des hôtels, en fait, 5 étoiles. Comme je le précise, pour une certaine catégorie de détenus qui ont de la famille derrière eux, des amis, etc. Mais pour la plupart des détenus de Belgique, comme les sans-papiers ou ceux qui n'ont plus de famille, ou pour les personnes les plus précarisées, ça devient un véritable enfer, en fait. C'est 9 mètres carrés dans 9 mètres carrés, 23 heures sur 24 pour la plupart. Les violences pénitentiaires, c'est les gens qui doivent purger des grosses peines, qui ne sont pas mis dans des maisons de peine, comme en Denne, où il y a 3 préaux, mais qui sont mis dans des maisons d'arrêt, comme Mons, Namur, où il n'y a qu'un préau. Un préau par jour, comme Mons. Donc, c'est 23 heures sur 24 en cellule. Je veux dire, la liberté, le manque de liberté en soi est déjà très, très difficile. Mais en plus, quand tu n'as pas accès à des activités ou que tu n'as pas accès à d'autres moyens pour t'évader, ça devient carrément catastrophique. Et pour les femmes, c'est vrai que quand tu arrives, en fait, quand tu n'as pas d'argent, ça devient très compliqué parce que les soins élémentaires comme des bandes hygiéniques, les soins élémentaires comme par exemple des soins pour tes cheveux ou un peu de maquillage pour être présentable pour tes enfants ou pour tes proches à la visite, c'est un luxe. Et elles subissent la même chose au quotidien que les hommes. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent, bien sûr, il y a l'aide sociale, mais elle se monte à 25 euros ou 30 euros par mois. Je veux dire, c'est carrément dérisoire. Donc, bien sûr, on ne peut pas demander à la population belge d'intervenir par rapport à ça, mais il n'y a pas assez de travail en prison. C'est ça la question, c'est que le travail, c'est aussi une forme de chantage. C'est-à-dire que, on va dire à un détenu, si tu te tiens tranquille, on te donnera du travail. Ou alors, il faut vraiment rentrer dans une certaine case pour pouvoir accéder à du travail en prison. Il n'y a pas assez de formation non plus. Par exemple, à Andenne, il y a une salle d'informatique toute nouvelle qui a été construite. Elle n'a jamais été utilisée parce qu'ils n'ont pas mis les moyens pour mettre des formateurs, des professeurs et des gardiens supplémentaires pour pouvoir accompagner les détenus. Donc, la violence carcérale, en fait, c'est pas uniquement que les gardiens qui frappent des détenus. C'est une violence qui empêche le détenu, un, de se réinsérer dans la société correctement, parce qu'il reste 23 heures sur 24 en cellule à ne rien faire. C'est des brimades permanentes. Ça veut dire que si tu oses te révolter pour demander un droit, une douche, un coup de téléphone, ou que tu as une crise d'angoisse parce qu'il y a des gens qui ne sont pas adaptés pour ce milieu, c'est directement cachot, il n'y a pas de négociation. Il y a des anciens gardiens qui ont un peu plus de psychologie parce qu'ils sont plus habitués et qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans les conflits parce qu'ils savent très bien jusqu'où ça peut mener. Mais la plupart des nouveaux gardiens qui rentrent sont des jobs alimentaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été formés assez bien psychologiquement et physiquement pour pouvoir faire à des cas extrêmement banals. Je veux dire, un détenu qui n'a pas fumé, pour ceux qui sont fumeurs, bah, si tu fumes pas pendant 3 jours et que t'as pas de paquet de tabac, bah, tu vas te ronger les ongles. Donc, ça rend le détenu nerveux. Ce sont des détails que nous, on ne voit pas au quotidien. Mais si tu as un gardien en face de toi qui ne fait pas preuve de psychologie, qui te crie dessus, qui t'insulte, peut provoquer directement, je veux dire, la violence, c'est aussi ne pas pouvoir joindre son avocat quand tu veux. C'est ne pas pouvoir... Normalement, tu as le droit d'écrire à l'extérieur, en fait. Ils doivent te donner un timbre et une enveloppe. Donc, tu peux écrire aux instituts européens, aux droits de l'homme, etc. Ce qui n'est pas fait, en fait. Donc, maintenant, à l'époque, on pouvait faire entrer des timbres par la poste, par enveloppe. Maintenant, non, le détenu doit l'acheter. Je veux dire, ce sont des détails du quotidien qui, quand en prison, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire valoir tes droits. Il y a eu... on le voit tous les jours, les violences. Hein, sauf que pour la police, c'est beaucoup plus large parce que bon, maintenant il y a les téléphones qui filment dans les rues. Mais si on pouvait mettre un téléphone qui filmerait tous les jours ce qui se passe en prison, on verrait que les violences, c'est pas le bon traitement médicamenteux aussi. Il y a des gens qui souffrent de troubles psychiatriques, psychologiques, qui ne voient ni psychiatre, ni psychologue. Ou alors, bien sûr, il y a un psychologue pour 120 détenus ou deux psychologues pour 120 détenus. Alors, on leur donne pas le traitement adéquat. En fait, on leur donne du Rivotril pour les casser, pour qu'ils dorment toute la journée. Et quand ils sortent, ils sont encore plus dépendants et encore plus malades que quand ils rentrent. Les violences, c'est par exemple les piqûres d'Aldol. Ils sont à 6 pour maîtriser un homme, mais pour... soi-disant leur défense personnelle, bah, ils hésitent pas à piquer avec n'importe quel produit chimique, en fait, pour que eux ne soient pas trop abîmés. Tout en sachant que, généralement, les conflits sont provoqués des deux parts, en fait. Je veux dire, aucun détenu n'a envie d'aller faire 9 jours de cachot, sans télévision, à chier dans un seau, dans un trou, loin de sa famille, je veux dire. Donc, il faut rester légitime. C'est pas une partie de plaisir, le cachot. La cellule d'isolement, enfin, ils ont appelé ça la cellule d'isolement pour rendre ça plus joli. Mais si on regarde bien, c'est un trou, quoi. Hein. Donc, personne n'y va pour le plaisir. Donc, si les gens sont menés à un moment ou à un autre à y aller, c'est soit par détresse psychologique, parce qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués. Faut pas oublier qu'ici, en Belgique, on a un taux de grève qui est fortement élevé. Donc, pendant les grèves, bah, ils ont rien. C'est très simple. Donc, quelque part, on prend les détenus en otage pour faire valoir des droits des gardiens, parce qu'ils ont pas assez de personnel, parce qu'ils ont pas assez de vêtements, parce qu'ils ont pas un salaire correct. Et tout ça, on est tous d'accord que c'est vrai. Mais c'est pas aux détenus à payer l'addition, je vais dire. C'est à la justice à prendre la violence pénitentiaire si on n'a pas mis les moyens qu'il fallait dans les prisons et dans la réinsertion, tout simplement, en fait. Bien sûr, on a construit 2 nouvelles prisons high-tech où on s'est parlé avec des ordinateurs. Ça, c'est aussi de la violence pénitentiaire parce que ce sont des gens qui sont coupés totalement d'humanité, en fait. Donc, on pense qu'en mettant des nouvelles briques et un nouveau écran, eh ben, que ça va arranger la situation. Non, ça n'arrange rien du tout parce qu'il n'y a plus d'humain. En fait, oui, bien sûr, les gardiens sont plus tranquilles, il y a moins de clash, on fait des prisons ultra sécurisées, mais les drames psychologiques qu'il y a derrière sont beaucoup plus forts que des prisons humaines et un peu familiales, je vais dire un peu comme Saint-Gilles, où tu as encore contact avec un être humain dans ta journée. Donc c'est tout ça, les violences pénitentiaires. Les violences pénitentiaires, c'est de ne pas pouvoir préparer son TAP correctement parce que tu n'as pas accès au téléphone. Les violences pénitentiaires, c'est quand ils sont en grève ou alors qu'ils n'ont pas envie, bah, c'est ne pas avoir accès à ton dossier pour pouvoir préparer ta défense. C'est tout un système judiciaire, en fait, qui est derrière et qu'on accepte et on ferme les yeux parce qu'on n'a pas envie de mettre les moyens, parce que c'est péjoratif, parce que défendre les détenus, bah, c'est pas marrant, hein, c'est plus gai de défendre des petits pandas et que voilà, c'est pas une cause qui tient à cœur, je vais dire. Mais malheureusement, on a un taux de surpopulation carcérale qui est dramatique. Ça aussi, c'est de la violence pénitentiaire. Il fut un temps où ils étaient à 3 en cellule, un qui dort sur un matelas, 2 sur 2 lits superposés, 1 toilette pour 3 dans 8 mètres carrés. Voilà, c'est ça aussi les violences pénitentiaires. C'est pas uniquement que les gardiens qui viennent, ils te donnent des coups de matraque. Pour en arriver là, en fait, il y a tout un cheminement, en fait. Et les jeunes qui rentrent en prison sont très mal accueillis. Donc, on te donne ton petit paquetage, hein, donc ta petite brosse à dents, ton petit dentifrice, hop là, ta petite cellule. Et après, t'es vu par la direction qui t'explique, ben voilà, monsieur, vous avez été condamné à tel. Mais il n'y a pas un soutien psychologique. Et il y a beaucoup de suicides par rapport à ça. Je veux dire, il n'y a pas que des malfrats qui ont braqué, qui ont dealé en prison. Hein. Dire la prison, ça peut arriver à la PDG de Fortis Bank parce qu'elle a détourné de l'argent. Ça peut arriver comme maintenant à l'autre qui a détourné de l'argent qui était coach à Anderlecht. Je veux dire, on voit plus en plus de gens d'une certaine caste de la société qui rentrent en prison. Est-ce que ces gens doivent être parias? Non, parce qu'en prison, il y a une certaine catégorie de personnes qu'on n'a pas envie de voir dans les rues et on en fait un melting pot. Donc on a tous les toxicomanes. Ça aussi, c'est de la vigilance pénitentiaire. Quand des toxicomanes à la prison de Nantin, parce qu'il y en a beaucoup, il n'y a pas assez de méthadone, n'ont pas leur méthadone, c'est de la violence pénitentiaire. Il faut savoir qu'être en manque de stupéfiants, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement grave, c'est des maux de ventre, c'est des vomissements, et que parfois ils restent pendant 3 jours, 4 jours dans leur vomi, et après on s'étonne pourquoi ces gens, tout d'un coup, ils pètent un câble. La violence pénitentiaire, c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour soigner justement le maux qui font que les gens rentrent en prison. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas trouvé une alternative à la prison, mais ce sera un échec total. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez beau construire des nouvelles prisons, ils vont se remplir. Elles vont se détériorer parce que c'est tout beau comme en Andenne, c'est tout beau, c'est tout rose au début. Puis il n'y a pas les moyens pour entretenir les infrastructures. Et petit à petit, au fil du temps, elles tombent comme des ruines. En fait, vous allez à la prison de Mons, il y a des trous dans les plafonds. Il y a des tiques. Est-ce que vous trouvez normal quand, dans la capitale de la Belgique, il y a des tiques qui vous rongent? Les matelas sont remplis de tiques. Je veux dire, il arrive un moment, il y a des prisons où c'est pas possible, c'est pas faisable, c'est pas tenable. Et donc voilà, je suis passée sur RTL TVI quand ils ont été vérifiés la prison de Forêt. Il y a des avocats et des juges qui pleuraient quand ils en sont sortis. Ils ont dit les cachots sont dignes du Moyen Âge. Ce sont encore des entraves rouillées. Je veux dire, c'est des entraves rouillées. Je veux dire, vous allez à la prison de Forêt, c'est digne du Moyen Âge en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre explication en fait. Il ne faut pas oublier que les visites sont limitées et que les gens sont obligés, plus maintenant, mais ils sont obligés de faire la file ou de téléphoner 100 fois par jour pour pouvoir accéder à une visite. C'est un stress supplémentaire. Donc je veux dire, on ne peut pas comparer ça aux prisons du tiers-monde parce qu'on va nous dire, oui, mais dans leur pays d'origine, oui, bien sûr, mais nous, on donne des leçons de morale au monde entier en disant, nous sommes défendeurs des droits de l'homme. Nous sommes un modèle d'exemple de réussite en matière de justice. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Je pense qu'il y a certains pays nordiques qui, eux, oui, peuvent se permettre de nous donner des leçons de morale. Mais on n'a aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit, en fait, parce que nos prisons sont des vrais taudis. Il n'y a aucune réinsertion, que les toxicomanes ne sont pas soignés, qu'on met des fous, qui ont des problèmes psychiatriques en prison, comme si c'était des déchets de la société qu'on n'en voulait pas, et que vous avez face à eux des gardiens qui ne sont pas formés pour ce genre de personnes.
D'accord.
Ben voilà, hein, c'était le premier témoignage de Vanessa. Je t'ai vu, Steph, t'étais très expressive à plein de moments du témoignage. Du coup, je te laisse peut-être réagir. Je t'ai vu faire des têtes, notamment sur... Le fait de l'argent en prison, quand t'as pas d'argent...
Quand t'as pas d'argent, en fait, c'est la catastrophe, parce que celui qui est fumeur, effectivement, ça m'a heurté, évidemment. Bon, si on a une avance, enfin, moi, c'était comme ça, une avance de 50 euros, mais c'est à rembourser. Donc, dès que les proches envoient, ils reprennent X%. C'est un système, ça dépend où on est, hein, mais ils reprennent X%, donc il faut verser moins d'autant pour ne pas qu'on reprenne. Donc c'est tout un calcul, voilà. Et sinon, les cantines, comme je l'avais déjà dit, sont extrêmement chères. Et puis alors, c'est vrai que on vous laisse comme ça, sans rien. Si on n'a pas de sous, il n'y a pas de tabac. Hein, c'est un peu l'expression, on dit pas de sous, pas de tabac, donc c'est vrai. Et celui qui est fumeur, c'est pour péter les plombs. Hein. Mm-hmm. Alors évidemment, on vient demander, oui, t'as pas une cigarette, ok, mais bon, on a besoin pour nous aussi, on a envie d'aider, mais c'est pas facile non plus, il faut faire face à tout ça, il faut faire face à... aux demandes, qu'on n'est pas toujours...
C'est difficile d'avoir de la solidarité quand tout le monde est dans la dèche, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mmh. Et alors, les détenus qui n'ont rien, ils repèrent vite ceux qui ont quelque chose, du coup, et c'est embêtant. Voilà, on est ciblé et c'est pas facile non plus, quoi. Et puis alors, avec le marchandage, ça c'est vrai, c'est plus par rapport à mon compagnon, ça j'ai déjà entendu, c'est continue, fais le mariole et tu auras pas ta VHS. Et alors, il y a, comme il dit, les bonnes équipes, les mauvaises équipes. Voilà. Et alors, au niveau du TAP, pour préparer son TAP, ben, les rendez-vous sont reportés, il y a un retard administratif abominable. Enfin voilà quoi. Je rejoins vraiment Vanessa dans tout ce qu'elle a dit, parce que c'est la réalité, c'est comme ça.
J'entendais aussi qu'elle disait que ben, la violence c'était notamment de ne pas avoir de traitement médical adéquat.
Tout à fait, oui. Parce que j'ai eu un abcès dans l'œil, et si je n'ai pas la gardienne qu'il fallait ce jour-là au matin, pendant 2 jours, donc j'avais une infection avec un abcès dans l'œil, si je n'avais pas eu cette dame-là, mon traitement, je l'attends encore, quoi. Donc, cette dame-là s'est débrouillée pour avoir mon traitement, et 2 jours après, ben, ça allait déjà beaucoup mieux, mais c'est vrai, c'est une lenteur, c'est lent. Ils s'en foutent. Et pour la méthadone, c'est vrai que c'est une souffrance horrible. Il y a une fille qui est arrivée, elle est restée 4 jours sans rien. Elle est restée dans son vomi, dans sa merde. Elle n'avait même plus courage de se lever. Et tout ce qu'on trouvait à lui répondre, c'est « On ne meurt pas de manque de camin !» Moi, je trouve ça honteux, quoi.
C'est clair. Et Justin, tu me disais aussi avant l'émission que tu avais eu beaucoup de témoignages en fait de ça en fait, que la lenteur c'était vraiment le truc important. Il y a pas d'urgence médicale en fait, tout prend du temps. Oui. Et donc les gens restent dans leur souffrance.
Il y a quelques années d'ici, c'est pour ça que j'avais très peur d'être transférée dans la prison en question. Il y a une dame qui est décédée comme ça. Sa codétenue a appelé à l'aide toute la nuit. La femme perdait du sang par les voix basses. Et le lendemain matin, c'est à l'ouverture des portes qu'on a daigné appeler l'ambulance. Elle est décédée pendant le trajet entre la prison et l'hôpital. Donc, enfin voilà, c'est inhumain. Enfin, il n'y a pas de mots, quoi.
J'imagine que cette histoire-là, par exemple, ce décès qu'il y a eu, bah, qui n'a pas été énormément médiatisé.
Ah, pas du tout, hein, ça a été bien tu, hein, ça.
Mais le fait que, j'imagine aussi que ça devait quand même en parler au sein de la prison entre les détenus, et le fait de savoir que ça existe, je ne sais pas quelle peur ça peut créer quand même.
Ça fait peur. Dès qu'on a mal quelque part, on se dit j'espère que je ne vais pas faire un infarctus, j'espère que je ne vais pas faire une hémorragie, j'espère qu'il ne va pas m'arriver ceci. Alors on vous fait signer à l'entrée. Hein. Oui, vous signez ça, c'est en cas de décès, parce qu'un arrêt cardiaque, c'est vite arrivé. Hein, et vous n'avez qu'à signer votre papier. Hein, et on vous dit ça comme ça. Hein.
C'est fou. Et moi, je me souviens de quelqu'un en prison qui m'expliquait que. Enfin, qui était très malade aussi, en fait, qui avait besoin d'une opération et qui souffrait le martyr. Et en fait, on lui disait pas quand est-ce qu'il allait aller à l'hôpital, parce que pour éviter les risques d'évasion, etc. Mmh. Et donc, en fait, c'était la souffrance, c'était l'attente aussi, quoi. L'inconnu, il savait pas s'il allait encore attendre un jour, une semaine, un mois pour avoir son opération. Et c'est horrible comme inconnu.
Oui,
quoi.
Oui. C'est le fait de ne pas savoir, rester dans le néant, ne pas savoir, c'est le pire, en fait.
Ouais,
tout à fait.
Et puis bah, là, je reprends aussi à un témoignage que j'avais entendu d'une personne qui avait besoin en urgence d'un dentiste, mais qui a eu son dentiste 3 mois après. Donc 3 mois après, bah, ça allait. Et donc en fait, c'était limite qu'il était, il avait pas un rapport, mais quand il disait bon, ça sert à rien de déranger un dentiste si ça va,
voilà.
Alors qu'il était en situation de crise et avec les situations de crise, vu la temporalité, en fait. Tu dois juste les vivre.
Et au niveau psychologue, psychiatre, etc., la liste d'attente est énorme, quoi. Donc, vous remplissez un petit papier et on attend, voilà. Et on ne sait pas. Et on dit, il y a une file d'attente super longue, hein. Donc, prends sur toi, quoi. Voilà, c'est vraiment ça.
Mais du coup, au niveau, on parle de médecin et ça fait un peu le lien avec le deuxième extrait. Justin, je te laisse peut-être l'introduire.
Oui, c'est encore la suite du témoignage de Vanessa qui parle un peu plus aussi de la présence des médecins et l'utilisation des médecins au sein des prisons. Est-ce qu'on va pouvoir envoyer ce témoignage maintenant ? Oui, merci.
Quand tu déposes plainte, si tu ne fais pas intervenir toi un médecin à tes propres frais, il faut payer le déplacement, il faut payer la visite, etc. T'as le médecin de la prison qui ne se mange pas entre eux parce qu'il est payé par le ministère de la Justice. Il va pas aller raconter qu'il est rempli d'hématomes, hein. Donc, non, il va bien. En fait, il faut savoir que quand t'es au cachot, tous les jours, il y a un médecin qui passe avec la direction, enfin, qui est censé passer avec la direction pour voir si tu tiens le coup, en fait. Si psychologiquement et physiquement tu tiens le coup. Je n'ai jamais vu un médecin venir dire que non, un détenu ne tenait pas le coup, en fait. Parce qu'il peut pas aller contre ni la direction, ni contre les gardiens. Ce serait beaucoup trop lourd. Après, ce serait invivable pour lui. Il serait harcelé par les gardiens. Oui, t'as pas ton badge, tu rentres pas, etc. Ça deviendrait invivable pour lui. Donc, dire que, c'est ça, en fait. Tout simplement, c'est ça, en fait. Et quand le détenu, plus tard, il veut déposer plainte parce qu'il a des séquelles, des séquelles psychologiques ou physiques extrêmement graves, il peut pas. Parce qu'il y a que le certificat, en fait, du médecin de la prison. Et les loups se mangent pas entre eux. Donc, le mieux, c'est de faire intervenir un médecin indépendant. Mais après, comme je l'ai explique, c'est souvent des gens précarisés en prison. C'est des familles qui parlent pas le français, et si tu vas en prison, c'est pas partie de plaisir. Ça veut dire que soit t'as pas les moyens. Donc voilà, et ces gens-là, ils se retrouvent réellement dans une détresse psychologique et sociale. Et pendant des fois 8-9 ans, on leur fait sentir qu'ils sont rien, qu'ils ont aucun droit, et quand ils sortent, on leur demande de jouer aux citoyens lambda, en fait. Hein. C'est ça. En gros, c'est ça.
Voilà, on vient d'écouter Vanessa, et donc en fait, pour recontextualiser un peu cet extrait, elle parle des violences des matons. En fait, il y a beaucoup de violences quand les détenus se sont mis au cachot, de violences un peu cachées, les matons ressortent avec des bleus comme par hasard, ou même pire. Et donc elle dit que voilà, en fait, un médecin est censé venir voir si la personne tient le coup, que ce soit physiquement, mais que ce soit psychologiquement aussi, parce que c'est très dur le cachot. Et en fait, ce médecin, il est pas du tout indépendant. D'ailleurs, je pense que Justin, t'as une information à ce niveau-là que tu m'as expliqué tantôt.
Oui. Puis bon, c'est pas moi qui l'ai. Hein, c'est juste le statut légal, c'est-à-dire que la santé des détenus, elle est sous l'autorité du ministre de la Santé, mais du ministre de la Justice. Donc voilà, il n'y a pas cette séparation des pouvoirs, et je pense que c'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Et voilà, c'est à noter.
Bonjour l'indépendance.
C'est vrai, on dirait vraiment que c'est lié. Hein. Ils n'oseraient pas faire autrement. Ça, c'est par rapport à mon compagnon. Hein. Il n'y a pas une fois, quand il me téléphonait, quand il était en section ouverte, qu'il n'y avait pas une bagarre qui éclatait. Mais alors, ils en profitaient pour donner un coup ici, un coup là. Mais oui, hein, tout à fait. Mais il s'était cogné. Voilà, il s'était cogné. Mais ça sert à rien d'aller mettre son petit papier dans la boîte pour porter plainte. Ça sert à rien du tout. Ça n'aboutit pas.
Mmh. Oui, c'est clair.
Donc,
Ouais. D'ailleurs, pour revenir à Vanessa qu'on a entendue, elle disait que en fait, pour revenir au constat du médecin, je dis ça, mais donc de manière générale, il faut savoir qu'on a le droit d'appeler un médecin extérieur pour faire constater. Donc on n'est pas obligé que ce soit le médecin de la prison. Ça, c'est quelque chose qu'on a vérifié, et c'est quelque chose qu'il est vraiment possible de faire. Après, effectivement, très peu de gens le savent, très peu de gens le font. Je ne sais pas si toi tu savais.
Non, pas du tout. Ça, je n'étais pas du tout au courant.
Parce que l'information ne tourne pas, parce que déjà, voilà, un médecin qui rentre, ça veut dire qu'il faut faire rentrer, ça veut dire, et vu que la direction ne peut pas bloquer ce genre de démarche normalement. Tu peux pas empêcher un médecin de venir constater l'état de santé d'une personne. Donc ça coûte cher, ça embête la direction, ça embête aussi tout le fonctionnement, parce que c'est faire rentrer quelqu'un en prison, et donc à chaque fois ça c'est un problème. Mais c'est quelque chose qui est faisable, et qui peut être utile dans des démarches ou dans une besoin de preuve.
C'est très bon à savoir.
Après, comme tu disais, Robin, en fait, ça coûte cher parce que les détenus n'ont pas de mutuelle. Donc, en fait, tu dois vraiment payer le médecin. Donc, c'est pas non plus une possibilité qui s'ouvre à tout le monde, parce qu'il faut payer ce médecin. Mais effectivement, Vanessa, elle disait qu'elle l'avait déjà fait pour son compagnon, parce qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui et qu'elle voulait être sûre qu'il aille bien. Et en fait, c'est une toute petite possibilité qu'il ait.
Mais d'un autre côté. Il n'hésite pas, pour aller en chambre du conseil, c'est parce que ça n'a rien à voir ici, mais c'est par rapport au prix. Ils ont des contrats avec des sociétés de taxi. Donc je me suis tapée de Lantin à Dinan en taxi. Donc le prix, quand j'ai vu le compteur, plus l'attente, je me dis, c'est pas à moi qu'on va facturer ça, heureusement non. Ouais. Mais pour ça, l'argent, il est là.
Ah ouais,
c'est... Et ça, je trouve ça dégueulasse.
Bonne gestion, quoi. Par contre, pour la santé, on n'a pas.
Voilà, c'est ça.
Oui, et puis donc, moi, j'avais noté à rajouter par rapport aux violences un peu plus sourdes, parce que en fait, quand tu disais même par rapport aux non-prises ou le fait de ne pas donner des traitements médicamenteux, ouais, voire même de surdoser des traitements médicamenteux à des personnes qui auraient besoin d'autre chose, le fait que des personnes disent qu'on ne meurt pas de manque de drogue, il y a quand même ce truc de tant qu'on n'en meurt pas, ça va, et qu'il y a aussi voilà une dégradation de l'état de santé de par juste le régime alimentaire, le fait que sans cantiner, ça a l'air d'être assez clair que on n'a même pas ce qu'il faut en fait pour vivre en bonne santé au niveau même de vitamines et de trucs.
Un fruit par semaine, si on cantine pas ces petits fruits.
Alors qu'on oblige les enfants à en manger 5
voilà,
par
ça,
jour.
Voilà, c'est ça, voilà, hein, tout à fait. Hein. Attention, au niveau quantité nourriture, ça j'ai rien à dire, mais je suis pas une grosse mangeuse non plus. Mais c'est vrai que c'est le strict minimum, quoi. Hein.
Et puis il y avait aussi pour des dégradations, on va dire physiques, long terme, sur bah, notamment la vision. Ça c'est un fait qui fait que beaucoup de détenus sortent aussi avec des lunettes, en plus de développer plein d'autres séquelles, mais que le fait de ne pas voir l'horizon, c'est une dégradation de la vue. Enfin voilà, ça c'était quelque chose qu'on m'avait demandé aussi.
Le fait d'être en cellule et du coup que tu vois pas tu vois jamais très loin, quoi, c'est ça.
Oui, et même à Birkendal, on m'avait expliqué que même pour les enfants qui étaient en visite avec leur mère de très jeune âge, vu que c'était pas bon à leur âge en fait de ne pas avoir d'horizon, et vu que les fenêtres étaient trop hautes pour les enfants pour avoir accès à un horizon, ils ont mis des petites marches pour que les enfants régulièrement puissent monter sur les petites marches pour regarder la fenêtre, pour avoir le droit de voir l'horizon, pour ne pas commencer avec des lunettes trop jeunes.
Aïe.
Donc ils ont des solutions. Hein.
Oui.
Ils n'ont pas de ressources, hein, en tout cas.
Non. Et alors c'est vrai, je reviens par rapport au témoignage de Vanessa, par rapport aux personnes qui ont besoin de soins psychiatriques. C'est vrai, c'est tout à fait ça, comme elle dit. Hein. Mm-hmm. C'est la piqûre d'aldol, et benzodiazépine et rivotril et en avant. Et voilà, et ça fait grossir, les personnes changent physiquement et... Enfin, elles ne sont plus elles-mêmes, quoi. Donc, elles n'ont pas leur place là-bas. C'est malheureux.
Ouais, il n'y a pas de prise en charge correcte.
Non, pas
du tout. Ah là là. Bah ouais, bah merci en tout cas, Steph, d'avoir commenté ça avec nous. Et donc, on va encore avoir un dernier extrait de témoignage de Vanessa pour clôturer cette émission. Mais avant ça, on vous propose une petite pause musicale. Alors, c'est une chanson qui avait été proposée par une proche et c'est « Tu es de ma famille » de Jean-Jacques Goldman.
Écrever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, et tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir, bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tombes au rapport tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grain de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de d'armée de Saint-Jean. Oh, tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps.
Vous êtes de retour dans l'émission Laisse pas béton sur Radio Panique 105.4. Donc voilà, c'était une petite chanson de Jean-Jacques Goldman qui a été proposée en fait par des personnes proches de détenus, proches en fait d'un détenu sans papier qui était leur voisin et qu'ils accompagnent depuis 4 ans parce que cette personne en fait elle a pas de famille, pas d'autres amis en Belgique vu qu'elle est arrivée peu avant son incarcération. Et donc, en fait, c'est une chanson qui leur rappelle un peu leur histoire et leur relation avec cette personne détenue qui soutiennent, en fait.
Et ben courage à eux, courage à tous les soutiens aux détenus, courage aux détenus eux-mêmes. Et ben on va reprendre un peu le fil de l'émission donc, sur les violences pénitentiaires. Et on arrive vers la fin de l'émission. On a beaucoup à dire, mais... On aimerait maintenant écouter aussi le témoignage de Vanessa pour lancer une discussion sur qu'est-ce qu'il est possible de faire comme plainte, comme recours, comme réaction, trouver des personnes ressources, qu'est-ce qu'on fait face aux différentes formes de violences pénitentiaires. On peut écouter maintenant déjà ce qui a été vécu par Vanessa.
Mais c'est-à-dire que quand tu es un détenu qui se fait frapper, si tu n'as pas de personne à l'extérieur, ça devient extrêmement compliqué. Tu peux demander à la direction de déposer plainte. Donc ça, c'est un droit qui est le détenu là. Donc tu as la police qui vient, qui prend ta petite déposition, et alors il l'envoie au tribunal. Mais il faut savoir que déjà dans la vie lambda, une bête femme battue qui se fait battre, ou toi qui te fais agresser en ville, si tu n'as pas de certificat médical ou si tu n'as aucune preuve, ça reste toujours la parole d'un criminel contre ceux d'un gardien, tu vois. Donc c'est ça qui est très compliqué en fait. C'est ça qui est très dur en fait, c'est de se dire qu'il faut savoir qu'un fonctionnaire est mandaté et que sa parole vaut deux fois plus qu'une personne normale entre guillemets. Donc oui, bien sûr, tu as le droit de déposer plainte, la police elle vient, elle prend... Mais c'est très rare que des gardiens ont été condamnés pour maltraitance, à part oui quand ça fait des faits médiatiques parce qu'il y a eu plusieurs détenus et que les détenus ont se prouvé par des téléphones ou que les familles se sont mobilisées avec des médecins indépendants, etc., comme à Forêt, comme à Mons, etc. Mais ça devient très compliqué en fait, et la direction n'appelle pas toujours la police non plus, hein. Il faut savoir que la direction, c'est pas dans son avantage non plus, hein, donc.
Et dans le cas où vraiment il y a des preuves et tout ça, enfin ça aboutit à des peines.
Ben ça aboutit très rarement à des peines, hein. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gardiens qui ont été condamnés pour coups et blessures sur des détenus, hein. Ça aboutit généralement s'ils travaillent à Nivelles, ben on va aller le mettre un peu plus loin à Mons, donc voilà, donc ils vont juste les changer de prison. Et c'est tout. Enfin, des sanctions sur les gardiens, moi, j'en ai jamais vu. Ceux qui se sont fait renvoyer, Je veux dire, sur 17 ans, j'en ai peut-être vu deux ou trois, mais c'était vraiment parce que soit ils avaient fait rentrer de la drogue ou qu'ils avaient fait rentrer des GSM, parce que ça traficote aussi en prison par rapport à eux. Mais je veux dire, pour avoir frappé un détenu, mais généralement, c'est quand il y a plusieurs plaintes sur le même gardien. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de déposer plainte parce qu'ils ont envie d'avoir une détention tout à fait tranquille. Et ça peut prendre des années et des années et des années. Et avant que. Et généralement, condamnation, c'est jamais de la prison ou c'est jamais du correctionnel. Hein, c'est juste une amende pénale, c'est juste on le rétrograde ou alors tout simplement il perd son emploi parce qu'il n'a plus sa place au sein de la fonction publique. Mais je veux dire, condamné à de la prison ou condamné. Je dis, moi, j'agresse quelqu'un dans la rue, je le massacre à coups de matraque, ben, je vais aller en prison, ça c'est sûr. Ben, eux non, je vais dire voilà quoi. Il y a toujours, oui, mais il était dans l'exercice de ses fonctions, et alors il y a toujours le mot sécurité, voilà, pour le bien-être de la prison, sécurité. Puis bon, c'est très rare que les collègues se dénoncent entre eux aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ça beaucoup, il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport aux prisons, c'est-à-dire que le gardien, j'ai connu deux ou trois gardiens qui avaient dénoncé leurs collègues et qui ne voulaient plus travailler là parce qu'ils trouvaient que c'était aberrant, etc. Mais qui du jour au lendemain, comme par hasard, le batch ne fonctionne plus, ou comme par hasard, il n'a pas reçu son horaire, ou comme par hasard, enfin, il va se mettre tous ses collègues à dos. Et pour lui, ça va être un enfer. Je pense qu'il va démissionner de lui-même, en fait. Hein.
Ben voilà, on vient d'écouter Vanessa qui, on voit, a pas beaucoup d'illusions sur les possibilités de recours quand on se fait frapper ou violenter par un gardien. Je sais pas ce que t'en penses, Steph.
Ben, je pense qu'effectivement, ils ont, enfin, leur parole a deux fois plus de poids. Et c'est jamais que la parole d'un détenu. Donc, et les loups ne se mangent pas entre eux. Donc, effectivement, il y a peu de recours. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler, enfin, du moins sur les dernières années, qu'il y avait eu des sanctions, quoi que ce soit, ou quelqu'un qui avait été rétrogradé, muté, si muté parce que c'est la personne qui avait peur pour elle, donc on la protège entre guillemets la personne, donc on les met autre part. Mais sinon, j'ai jamais rien entendu de tout ça. Ça doit être très compliqué en tout cas.
Je pense que c'est très compliqué. Hein. Il y avait j'ai juste en tête une grosse affaire en 2019 où il y a 17 gardiens, je pense, de la prison de Forêt qui ont été poursuivis en justice pour avoir commis un nombre incalculable de violences en fait. Ouf. Et encore même cette fois-là où ça a abouti à un truc en justice, ben il n'y a pas eu vraiment de sanctions. Ils ont été condamnés sans peine. Bon, on n'a pas envie forcément qu'ils aillent en prison non plus, hein, mais en tout cas il n'y a rien eu qui a été mis en place pour que les choses changent en fait. Alors que
n'empêche que ça leur serait bon quand même. Hein.
Bah, c'est ce qu'on disait. On pourra les inviter à l'émission et ce sera intéressant d'entendre leur vision des deux côtés.
Des barreaux.
Mais en tout cas, c'est vrai que justement, même dans une perspective aussi non pénaliste, en fait, de pas réclamer que de la peine pour ceux qui font du mal, mais comment faire en sorte que ça se passe plus. Il y avait le témoignage de Vanessa rappelait en fait que ces choses-là pouvaient qu'empirer, surtout étant donné le manque de personnel, la surincarcération et le manque de formation, parce qu'il y a quand même eu dans les actualités le fait que justement la maxi-prison de Haren, qui se veut comme une prison moderne et créée pour le bien-être des détenus, en fait se base quand même sur des emplois alimentaires extrêmement précaires avec des formations minutes que beaucoup du personnel pénitentiaire des anciennes prisons ne veulent absolument pas y aller. Et je voulais aussi rappeler aussi un autre fait un peu de violence qui était que c'était plus facile de reconnaître une violence humaine entre détenus gardiens et alors que la violence technologique qui elle était complètement invisible et vu qu'il y a dans les prisons modernes une automatisation de beaucoup de procédures, ça pouvait aussi créer de plus en plus de violence quoi, psychologique.
Tout à fait. Mais c'est vrai que l'établissement de Marche en Famène, en fait, tout se fait par ordinateur. Hein, donc on envoie sa demande par ordinateur. C'est un programme interne à la prison. Et tout se fait comme ça. Les cantines, tout, c'est tout informatisé. Et il faut que ce soit fait vraiment à temps, à heure. Sinon, si c'est à 30 et qu'on est à 31, c'est trop tard, c'est fini. Enfin voilà, et alors le fait aussi par rapport, je reviens sur ce que Robin disait, par rapport aux formations minutes, c'est là qu'on reconnaît vraiment les bons gardiens, j'ai envie de dire, avec leur ancienneté, qui ont fait ça par, entre guillemets, vocation, qui sont là mais pas pour juger, pas pour, pour enfoncer les détenus, mais quand même être là, d'être présent, d'avoir l'oreille à l'écoute. Et ça, il y en a peu. Mais c'est vrai que les petits jeunes, etc., voilà quoi, c'est pas toujours ça.
Mais voilà. Ouais, c'est ça qu'on. Ça renvoie à la première, ouais, à la première partie du témoignage et de. Du fait qu'effectivement, il y a peut-être un manque de formation, etc. Mmh. Et du coup, pour revenir juste rapidement sur les réactions aux violences au sens large, petit rappel d'information qui est, bon, pas du tout pour les violences physiques, mais en fait, sur le fait qu'on peut porter plainte depuis 2020, c'est tout récent, aux commissions de plainte pour des décisions individuelles prises contre les détenus par la direction. Donc c'est vraiment, c'est pas pour les violences en fait, mais c'est plus pour le fait de porter plainte, pour le fait d'être mis au cachot sans raison, pour le fait d'être fouillé sans raison, d'avoir des privations de visite, enfin toutes des petites choses que les matons peuvent faire pour mettre des bâtons dans les roues des détenus.
Par voilà, plaisir parfois.
Ouais, c'est ça.
Mais oui,
c'est
juste ça. Par plaisir. Hein.
C'est une toute petite avancée depuis 2020. Après, c'est vrai que les témoignages qu'on en a, c'est qu'en général, si tu oses porter plainte, ben, on va te mettre encore plus de bâtons dans les roues.
Ça, c'est certain. Ça ne fait qu'empirer les choses, c'est j'imagine. Oui.
Je n'ai pas sûr que ce soit vraiment une amélioration, mais voilà, c'était juste quand même pour le mentionner. Et du coup. Nous, on rappelle aussi que dans les réactions possibles au sens large, Justin, je te laisse peut-être.
Ouais, il y a la médiatisation, réussir à en parler, réussir à avoir un soutien des familles, un soutien collectif, un soutien d'autres proches de détenus pour avoir des conseils, parce que ça passe aussi beaucoup par des personnes, on va dire des bons gardiens ou des bons directeurs, des gens qui font un peu plus d'efforts et qui peuvent faire un peu plus de pression de leur côté. Donc c'est des informations à échanger. Il y a aussi la ligne Info Prison qui est une permanence de récolte d'informations. Information, donc qui ne permet pas des réactions, mais qui permet de partager des informations. Derrière la ligne Info Prison, il y a donc le collectif de lutte anticarcérale, la Ligue des droits humains, l'Observatoire international des prisons et le Genepi Belgique. On se moque de moi. Mais et donc, le numéro que je passe pour une permanence, qui n'est pas un numéro gratuit, de 9h à 18h, c'est les mercredis et samedis de 9h à 18h, le 04 98 51 51 91, le 04 98 51 51 91. Et donc c'est une façon de pouvoir faire noter par des personnes des choses qui se passent et que ce soit partagé à travers d'autres structures. Mais c'est pas grand chose.
Voilà, merci en tout cas Justin pour ce rappel. Et donc on arrive tout doucement au bout de cette émission. On aurait bien aimé finir sur une note joyeuse avec plein de bons conseils pour réagir aux violences pénitentiaires. Mais bon voilà, le tableau est malheureusement assez triste et c'est un peu la merde. Mais ça veut dire que ça reste très important de visibiliser au maximum cette réalité, de témoigner le plus possible. D'ailleurs du coup merci Steph d'être venu aujourd'hui témoigner. On vous rappelle que...
Avec grand plaisir.
C'est possible en tout cas toujours de nous contacter via notre page Facebook, La Claque No Prison, avec vos témoignages ou vos envies de venir discuter avec nous et donc de contacter la ligne Info Prison également.
Oui, et mes excuses aussi pour les témoignages qui n'auront pas pu être vraiment partagés dans cette émission trop courte, mais qu'on pourra partager dans des prochaines émissions. On pourra continuer sur ce thème ou sur d'autres, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec les gens de l'émission.
Et donc, on a l'habitude de terminer avec quelques petits mots d'encouragement. Du coup, Steph, est-ce que tu as un petit mot à faire passer, peut-être ?
Oui, tout d'abord, je voudrais encourager tous les détenus à tenir le coup. Et je leur envoie plein de courage. Et un jour, c'est sûr, ils sortiront. Donc, prenez sur vous, les gars ou les filles. Et franchement, plein de bonnes choses pour vous qui vous attendent et je fais des bisous à mon compagnon qui est à Andenne pour le moment. Voilà.
Courage à tous, courage à toutes les personnes victimes de violence et on est là pour vous écouter en tout cas. Et on va terminer sur une petite note musicale choisie par Steph en tout cas. Où on n'a plus le temps pour la note musicale. On la passera la prochaine fois du coup. Mais merci de nous avoir écoutés. C'était L'Espace Béton sur Radio.